Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
André Pétillot, général de corps d'armée de la gendarmerie, c'est-à-dire 4 étoiles, vous commandez un vaste territoire, la Nouvelle-Aquitaine. Il y a quelques semaines, vous avez eu à résoudre un cas de forcené en Dordogne qui a mobilisé un dispositif impressionnant de gendarmes. C'est d'ailleurs un phénomène de violence en expansion que celui des forcenés, un tous les 2 jours en 2020, c'est ça ? Et ça continue en 2021. Étonnant, préoccupant, parce que ces hommes se réfugient presque toujours dans la violence. Général Pétillot, vous êtes aussi un spécialiste des finances. Un officier de confiance, c'est ce que disent de vous les 2 derniers directeurs généraux de la gendarmerie nationale. Vous êtes donc l'homme idoine pour que nous passions en revue durant 1 heure les mythes et les réalités de l'insécurité en France et la manière dont la gendarmerie essaie de résoudre ce vaste problème. Vaste et difficile. La sécurité est aujourd'hui l'une des préoccupations numéro 1 des Français et l'un des thèmes majeurs du débat politique. En tant que praticien de la sécurité au contact du terrain, est-ce que vous êtes surpris par cette évolution ?
Alors, tout d'abord, je pense que ce n'est pas vraiment nouveau. La sécurité est un thème majeur du débat public et une préoccupation majeure des Français depuis plusieurs décennies, à côté d'autres sujets de préoccupation comme l'emploi, le pouvoir d'achat, l'éducation ou la santé. Mais il est vrai, comme le président de la République l'a souligné dans sa récente intervention dans la revue Zadig, que ce sujet-là revêt aujourd'hui une acuité toute particulière. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, la délinquance dans son ensemble est plutôt stable dans ma région depuis 2017. C'est une augmentation de 1,7%. En revanche, effectivement, il y a de profondes évolutions dans la structuration de cette délinquance qui est en pleine mutation, avec des phénomènes qui diminuent fortement, notamment les atteintes aux biens, et en revanche, les violences intrafamiliales et la cybercriminalité, les escroqueries qui sont en pleine augmentation. Donc c'est effectivement une préoccupation quotidienne de nos concitoyens qu'on perçoit très bien dans les contacts que les gendarmes peuvent avoir avec eux.
Cette acuité de la violence soulignée par le président de la République, comment l'expliquez-vous ?
Je ne vais pas me lancer dans une explication sociologique. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien en peine d'identifier les causes structurelles ou plus conjoncturelles de cette violence, notamment celles qui touchent en particulier les représentants de l'autorité, les élus, les gendarmes, les policiers. La période du confinement a forcément eu des conséquences, mais ce phénomène n'est pas non plus directement, n'a pas commencé avec la crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, c'est un phénomène que nous observons de manière préoccupante. Vous l'avez rappelé, 46% d'augmentation des atteintes aux élus, environ plus de 25% d'augmentation des violences contre les gendarmes cette année. Nous y sommes très attentifs et très mobilisés pour essayer de lutter de manière déterminée contre ce phénomène et protéger tant les élus que nos personnels de ce phénomène. Par exemple, cet été, nous avons eu un maire qui a été victime en Gironde d'une agression très violente alors qu'il s'interposait face à des individus qui causaient du trouble. Et nous avons mobilisé beaucoup de moyens pour identifier puis interpeller ces auteurs. Et sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, la totalité des faits d'agression d'élus ont été solutionnés et leurs auteurs déférés à l'autorité judiciaire.
Alors, on oppose souvent, de manière peut-être artificielle, je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, le sentiment d'insécurité et la réalité des chiffres de la délinquance. Est-ce qu'il y a vraiment une montée de l'insécurité dans notre pays ? Oui, mais pas l'insécurité à laquelle on réfléchit habituellement. Elle a changé de nature, c'est ce que vous venez d'expliquer. Est-ce qu'elle correspond à une perception exagérée des menaces par l'opinion publique ou est-ce qu'elle repose sur un constat objectif ?
Alors, tout d'abord, je pense que ces deux notions ne sont pas exactement identiques. On peut se sentir en insécurité sans qu'un acte de délinquance ne soit commis. Par exemple, on est dans un réseau de transport en commun, une rame de métro, un train, un individu un peu déséquilibré, invective, un comportement un peu curieux, sans pour autant commettre la moindre agression, on va se sentir en insécurité et on n'aura qu'une hâte, c'est que d'arriver à destination. À l'inverse, il y a de la délinquance qui n'engendre pas de sentiment d'insécurité. La fraude fiscale, la contrebande de cigarettes, ce sont des infractions graves, parfois avec des préjudices importants, mais qui n'engendrent pas de sentiment d'insécurité. Donc, ce sentiment d'insécurité, ce n'est pas une notion qu'on doit balayer d'un revers de main en disant « concentrons-nous exclusivement sur les chiffres ». C'est quand même une réalité et c'est à ce sentiment-là que nous devons répondre. Il y a des mutations profondes aujourd'hui dans nos territoires. dans la grande métropole bordelaise, les zones rurales connaissent une évolution importante, démographique, sociologique. Et jusqu'à il y a encore peu de temps, on pouvait partir faire ses courses en laissant sa voiture ouverte, sa maison ouverte. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut s'adapter à cette réalité. Il faut également accompagner les collectivités territoriales, mettre en place de nouveaux dispositifs comme la vidéoprotection, par exemple, la collaboration avec les polices municipales pour rassurer nos concitoyens. Et aussi, je crois, et c'est une attente très forte de la population et une demande du ministre de l'Intérieur, la présence sur la voie publique. On doit voir les gendarmes sur la voie publique. C'est aussi un élément important, je pense, pour faire baisser ce sentiment d'insécurité.
Les gendarmes, les policiers évidemment de l'État, la police nationale et la police municipale. Il y a une collaboration entre vous trois, d'ailleurs, de plus en plus active.
Tout à fait. Alors, il y a une collaboration de très longue date avec la police nationale. On pourra peut-être y revenir un peu plus en détail. Et il y a aussi une collaboration quotidienne avec les polices municipales. Il y a de nombreuses communes qui se sont dotées de polices municipales. Il y a des conventions de partenariat avec ces polices municipales de manière à ce que chacun appuie l'autre. Ce n'est pas un partage des tâches, hein. C'est une action collective pour appuyer ces polices municipales.
Avec une différence importante, puisque le policier municipal n'est pas officier de police judiciaire.
Tout à fait. Pour autant, il dispose d'un certain nombre de compétences qui lui permettent d'assurer des missions de police du quotidien. Et les gendarmes sont là pour l'appuyer, pour prendre en compte le volet enquête, mais sans abandonner le terrain. Il n'y a pas la police municipale qui tient le terrain et les gendarmes qui font de la procédure à la brigade. C'est une action collective.
Alors, l'insécurité globale recouvre des domaines très divers. Quoi de commun entre un vol à la tire, un trafic de drogue international, une violence intrafamiliale et un attentat terroriste? Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan rapide mais précis des principales sources de la délinquance et de la criminalité en 2020, puisqu'on n'a pas fini encore l'année 2021. Donc vous avez quand même des chiffres et des observations à faire sur ce bilan.
Je vais évoquer les chiffres que je connais, c'est-à-dire ceux de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui sont grosso modo assez représentatifs de l'évolution au niveau national.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de l'agglomération de Bordeaux, évidemment. Mais c'est identique aussi avec l'agglomération parisienne ou l'agglomération lyonnaise ou celle de Marseille, celle de Nice, c'est-à-dire toutes les grandes villes citadines. Il y a à peu près, je dirais, un parallélisme d'évolution de cette délinquance, de la même manière qu'elle est en Aquitaine.
Tout à fait. Chaque territoire a ses spécificités, mais sur les grandes masses, globalement, les évolutions sont comparables. Ce qu'on observe, c'est effectivement une certaine stabilité de la délinquance générale, qui agglomèrent, comme vous l'avez indiqué, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si on prend de 2017 à 2021 sur le premier semestre, donc on a déjà quand même 6 mois de recul sur l'année 2021, on est sur une augmentation de 1,7% en Nouvelle-Aquitaine pour la gendarmerie. Mais à l'intérieur de cette quasi-stabilité, on a une baisse extrêmement forte des atteintes aux biens, puisqu'elles ont diminué de plus de 10 000 faits en zone gendarmerie, soit 28% de diminution.
Quand vous dites atteinte aux biens, c'est-à-dire
c'est vol, cambriolage, tout ce qui a trait, finalement, comme son nom l'indique, à la soustraction de biens ou dégradation également. C'est d'ailleurs à peu près la moitié de la délinquance, ces atteintes aux biens. C'est 50% à peu près de la délinquance.
Et là, il y a une diminution.
Une diminution importante, très importante. Tout à fait.
Et vous l'attribuez à quoi?
Il y a d'abord la meilleure protection des domiciles, des véhicules. C'est plus compliqué aujourd'hui de voler une voiture qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Il y a aussi, je pense, une action très déterminée des forces de sécurité contre certains groupes criminels organisés, ce que nous appelons, nous, les groupes criminels organisés itinérants, qui émanent souvent des pays de l'Est, qui sont des structures qui, agissent au niveau européen, dans différents pays, qui se déplacent de manière extrêmement rapide, mais qui procèdent à des actes très nombreux, de manière sérielle. Hein, et ce travail de démantèlement est en cours, a été extrêmement soutenu au cours de ces dernières années.
C'est-à-dire quoi? Les bijouteries, les vols de voitures?
Ça peut toucher tout type de biens. Par exemple, on a des phénomènes de vol de GPS agricole. Un GPS agricole, ça vaut 15 000 euros. Donc si vous en volez 40 dans la semaine, vous imaginez tout de suite le bénéfice que vous en tirez et le préjudice causé à nos agriculteurs. Ça peut toucher des vols de métaux, des vélos de luxe. Ça peut toucher aussi, parfois, de simples bouteilles d'alcool dans des commerces. Mais quand vous en volez 300 par jour, ça vous fait évidemment, là encore, un préjudice important. À côté de cette baisse, qui est une très bonne chose, des atteintes aux biens, on a une augmentation importante, de l'ordre de 50% des violences, des atteintes volontaires à l'intégrité physique, c'est de l'ensemble des violences, et de tout ce qui concerne...
Et c'est ce qui génère d'ailleurs ce sentiment d'insécurité dans la population.
Oui, mais quand on analyse les choses de manière un peu plus détaillée, ce qui est intéressant, c'est une baisse importante de ce qu'on appelle les violences crapuleuses. Les violences crapuleuses, c'est les violences qui sont associées à la commission d'une autre infraction. Par exemple, je vais agresser une personne âgée pour lui voler son sac, elle tombe et elle se blesse. Voilà les violences crapuleuses. Je vais aller violenter une personne pour lui extorquer son code de carte bancaire ou le code de son coffre-fort. Ces violences, elles diminuent de manière importante au cours des dernières années. C'est une baisse de 27% en région Nouvelle-Aquitaine. En revanche, les violences qui augmentent de manière extrêmement marquée et de manière régulière, ce sont les violences plutôt dans la sphère familiale et les violences sexuelles, les deux étant parfois confondus.
Et vous êtes, parce que c'est quand même une criminalité très spécifique, une violence très spécifique et difficile à réprimer, en tout cas à repérer et à résoudre.
Alors, effectivement, et il y a sans doute encore un chiffre noir important en la matière, même si depuis quelques années, il y a une mobilisation extrêmement importante face à ce phénomène, qui, il y a encore 10 ou 15 ans, a été traité finalement pas comme une priorité. Aujourd'hui, c'est une priorité absolue des forces de sécurité intérieure et de la justice. Et dans l'augmentation de ces faits de violences intrafamiliales, il y a sans doute une part importante de meilleure connaissance, de meilleure révélation de ce type de délinquance et d'une meilleure prise en compte. Pour autant, ça reste un phénomène de masse, puisque nous avons à peu près 300 faits au niveau national par jour en zone gendarmerie de violences intrafamiliales. Donc ça demande quand même une mobilisation particulière et une structuration de notre action en la matière.
En général, on va marquer un entracte, en quelque sorte. On va pouvoir se rafraîchir, si en tout cas vous le voulez. Et nous reviendrons pour parler des nouveaux défis.
10h, 11h sur Europe 1. Les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Avec le général André Pétillot, général de corps d'armée de la gendarmerie. Mon général, le confinement a révélé l'importance des violences intrafamiliales dans la société française, vous venez d'en parler. Elles étaient déjà présentes aussi bien en milieu rural qu'urbain. Elles ont grimpé en flèche à la faveur de ce phénomène. Comment faites-vous pour l'appréhender? Parce que c'est assez délicat et difficile, je le soulignais auparavant.
Alors, l'augmentation des faits portés à la connaissance de la gendarmerie est importante et continue au cours de ces dernières années. Et derrière ce constat, moi je vois deux réalités. La première, c'est effectivement un changement de dimension dans la prise en compte de ce phénomène. Aujourd'hui, suite au Grenelle de lutte contre les violences conjugales, il y a vraiment une approche globale de cette criminalité, que s'agisse de la prise en charge des victimes, de la réponse pénale, l'incitation des victimes au dépôt de plainte, le suivi ensuite des victimes, tout cela est désormais complètement organisé et de manière très structurée.
Bon, on connaît les zones évidemment de compétence de la gendarmerie et les zones de compétence de la police. Est-ce que dans vos zones de compétence, est-ce que ça s'est accru aussi?
Tout à fait. En fait, c'est un phénomène qui touche tous les territoires et toutes les composantes de la population. Il n'y a pas de caractérisation de ce phénomène. C'est vraiment un phénomène massif, je le disais tout à l'heure, 300 faits par jour.
Et c'est aussi 300 faits par jour.
Au niveau de l'ensemble du territoire national constaté par les unités de gendarmerie. Donc c'est une délinquance de masse. Alors pour y faire face, on a mis en place un certain nombre de choses dans le cadre de cette organisation structurée et globale. Tout d'abord, un travail de formation. Mais ce qui est certain, c'est que tout gendarme doit être capable de le traiter correctement, d'accueillir correctement une victime, d'éviter des formules ou des postures qui pourraient dissuader la victime de poursuivre sa démarche. Donc il y a un important effort de formation. Tous les élèves qui passent en école aujourd'hui ont une formation importante, 120 heures de formation sur la prise en compte des violences intrafamiliales. Et donc, dans les mois et les années qui viennent, c'est la totalité des personnels en charge de la prise en compte des plaintes qui sera formée. Nous avons également mis en place des structures dédiées. Ce n'est pas la totalité des unités dans lesquelles nous pouvons créer des structures dédiées, mais par exemple, je vais vous citer la brigade de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. C'est une unité à l'effectif d'à peu près 30 militaires, dans lesquels nous avons une structure animée par des hommes et des femmes, de 7 personnels, qui traitent la totalité du contentieux des violences intrafamiliales. Donc ils ont un réseau maintenant très structuré avec les procureurs, les magistrats spécialisés, les associations d'aide aux victimes, les intervenants sociaux. Ce qu'on en retire, c'est une diminution très importante des délais de traitement des procédures. En moyenne, elles sont traitées en 20 jours aujourd'hui dans cette unité.
Alors que ça n'était pas le cas.
Alors que ça pouvait aller jusqu'à 3 mois avant, effectivement. Et surtout, une totale intégration dans l'ensemble du réseau des personnes qui traitent. Parce qu'il faut traiter le volet judiciaire et pénal, mais derrière, il y a aussi un accommodement social souvent à mettre en place, un hébergement à trouver. Et enfin, nous avons aussi créé des maisons de confiance et de protection des familles, qui sont des unités également spécialisées, mais qui ne font que ça. Ils ne sont pas au sein des unités, des brigades territoriales, qui sont des unités dédiées à ce travail. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous aurons cet été 8 maisons de confiance et de protection des familles sur les 12 départements de la région.
Alors, mon général, je crois qu'il faut rappeler, beaucoup d'auditeurs le savent certainement, mais qu'il y a une différence essentielle, même si vous avez le même ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, il y a une différence entre le policier et le gendarme. Le gendarme a un statut militaire, une formation militaire. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle compte, elle pèse lourd dans la formation du gendarme. Et là, tout ce que vous nous décrivez, notamment, c'est une véritable évolution, une transformation quand même de la formation, même si le statut militaire reste prépondérant.
Comme vous l'indiquez, le socle de base de la formation du gendarme reste une formation militaire. Ces actes élémentaires du combattant, qui doivent être maîtrisés par l'ensemble des militaires de la gendarmerie, sont absolument essentiels. Donc le fait de prendre en compte, d'adapter notre formation au phénomène de délinquance auquel nous sommes confrontés, n'interdit pas, n'est pas exclusif du maintien d'un socle de formation de base fondé sur la militarité, la rusticité, la disponibilité, l'engagement, les fondamentaux de l'état militaire.
Alors justement, tout à l'heure je disais en ouvrant cette émission, ces derniers mois on a assisté à une multiplication des cas de forcenés retranchés dans des endroits improbables et qui ont fait usage de leurs armes. Ils sont apparus entraînés. Rustique, c'est un terme spécifiquement militaire, entraîné comme des militaires de combat. Dans le Puy-de-Dôme, notamment, la gendarmerie a payé un très lourd tribut à cette forme de délinquance. Dans les Cévennes, elle a pu maîtriser l'individu qui avait été hélas tué avant de trouver refuge en forêt. Quelle est votre méthode pour traiter ce type de situation? Quelle est votre approche pour neutraliser ces individus qui sont de plus en plus dangereux?
Alors, notre approche, en fait, elle vise à concilier trois objectifs. Le premier, c'est protéger la population, puisque ces individus présentent un danger avéré pour la population. Et donc, les empêcher de sortir de la zone et de pouvoir continuer les méfaits ailleurs. Le deuxième objectif, c'est d'intervenir en sécurité, puisque ces individus, vous l'avez souligné, sont parfois lourdement armés, avec des matériels très performants.
Mais dans le Puy-de-Dôme, vous avez perdu 3 gendarmes.
Dans le Puy-de-Dôme, nous avons perdu 3 gendarmes. Et nous, justement, nous menons actuellement, sous l'autorité du directeur général, un retour d'expérience approfondi pour tirer les enseignements de ce drame. Et enfin, déférer l'auteur à la justice. Ce n'est pas une opération de guerre. Le but n'est pas d'éliminer un adversaire, c'est bien d'interpeller l'auteur d'une infraction. Et donc, pour cela, nous appuyons d'abord, effectivement, le savoir-faire de nos gendarmes, primo engagés, parce que ceux qui sont le plus exposés, ce sont les gendarmes qui arrivent les premiers sur ces phénomènes.
Alors, juste, je voudrais vous interrompre un instant. Vous avez aussi une unité spéciale dont il faut parler. C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, le fameux GIGN, qui est commandé par un général, d'ailleurs, Christian Réti, et qui va passer de 400 à 1000 hommes. Bon, avec différentes missions qui ne sont pas toujours identiques. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la vocation dans l'intervention de cette unité. C'est qu'il faut surtout préserver la vie, mais aussi ne pas obligatoirement faire dans l'intervention du tir à tuer.
Exactement. L'objectif, c'est bien de déférer à la justice l'auteur. Parmi les retours d'expérience du drame survenu fin 2020 dans le Puy-de-Dôme, il y a le renforcement de la formation continue, puisque le socle de base, il est bien acquis, mais nous devons entretenir ce savoir-faire. Et le directeur général a obtenu de l'armée de terre un soutien que nous allons pouvoir former nos personnels avec les régiments de l'armée de terre qui sont parfaitement aguerris à ces sujets-là et qui mènent régulièrement, enfin quotidiennement, des opérations extérieures.
Mais dans le cas spécifique des forcenés?
D'une manière générale, ces actes élémentaires du combattant, si j'ose dire, c'est des savoir-faire tactiques qui sont identiques, que vous ayez affaire à un forcené ou un ennemi. En revanche, c'est la façon dont le feu va être ensuite délivré qui va changer.
Il y a une délinquance numérique qui se développe de plus en plus, qui fait aussi des ravages chez les particuliers. Arnaques sur Internet, haine en ligne, revenge porn, formes d'insécurité qui sont lourdes psychologiquement. Quel accompagnement, quelle aide aux victimes êtes-vous en mesure de proposer? On l'a vu dernièrement avec le procès Mila, cet anonymat d'insultes, si vous voulez, qui se déverse à travers les réseaux sociaux. Ça fait partie de la compétence des gendarmes aussi.
Effectivement, la cyberdélinquance, aujourd'hui, elle est en train d'exploser. Et avec le confinement, on a une accélération, une bascule de la délinquance du monde physique, si j'ose dire, vers le monde numérique. Alors, elle revêt différentes dimensions que vous avez évoquées. Effectivement, la haine en ligne et le procès Mila en est assez emblématique. Elle revêt aussi des dimensions d'escroquerie qui peut viser les entreprises, ce qu'on appelle les rançongiciels, qui sont un phénomène massif. Dans ma région, nous avons eu deux hôpitaux qui ont été touchés récemment, l'hôpital de Dax et celui de Laurent-Sainte-Marie. Ce sont des attaques assez comment dire, élaborées et effectivement, ça peut paralyser le fonctionnement d'une structure hospitalière ou d'une entreprise, parfois de groupes de dimension mondiale. Et donc, c'est une menace extrêmement importante à laquelle sont confrontés nos acteurs économiques et finalement l'ensemble des institutions. Et puis, il y a aussi des escroqueries de particuliers. Actuellement, la section de recherche de Pau travaille sur un dossier de plus de 10 millions d'euros de préjudice, plusieurs centaines de victimes sur des escroqueries en ligne. Donc, cette cyberdélinquance, elle a de multiples visages. Et il y a forcément un volet répressif sur lequel nous sommes engagés. Nous avons un centre de lutte contre les criminalités numériques implanté à Pontoise, qui est notre centre expert en la matière. Mais nous avons aussi un réseau de 6000 gendarmes qui sont formés à la lutte contre ces phénomènes, qui peuvent prendre les plaintes, orienter les victimes et saisir les compétences spécialisées.
Je vais vous interrompre une deuxième fois, mon général, parce que nous avons un deuxième entracte et nous allons nous retrouver pour traiter de la gendarmerie face aux crises.
Les grands entretiens sur Europe 1. Charles Villeneuve.
Général André Pétillot, général de corps d'armée qui commande la Nouvelle-Aquitaine. Mon général, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par de fortes tensions sociales qui ont dégénéré au moment de la crise des Gilets jaunes. En violence grave, parfois, au point que nos institutions ont semblé parfois vaciller. Depuis les agressions contre les élus, les forces de l'ordre, les pompiers qui émanent de ces Gilets jaunes, mais pas seulement, et qui émaillent surtout le quotidien, elles sont moins le fait de délinquants chevronnés que d'individus sans casier judiciaire en colère contre la société. Est-ce que la gendarmerie l'avait vu arriver, ce phénomène ? Est-ce qu'elle l'avait pressenti ?
Tout d'abord, je n'établirai pas forcément de lien direct entre le phénomène des Gilets jaunes et l'augmentation des agressions contre les forces de l'ordre ou contre les représentants de l'autorité, puisque dans ce qu'on constate quotidiennement, parmi les auteurs, beaucoup sont des gens qui ont un casier judiciaire, qui sont des gens connus de la justice quand même, parmi les gens qui s'en prennent à nos gendarmes. Pour autant, comme vous l'indiquez, il y a eu aussi à travers la crise des Gilets jaunes...
Ou aux policiers.
Ou aux policiers, bien sûr. Voire aux pompiers, aux élus, finalement, tout ce qui incarne l'autorité de l'État, aux enseignants aussi parfois. Dans la contestation finalement de l'autorité qu'a incarné la crise des Gilets jaunes, je crois que personne ne peut se targuer de l'avoir vu venir, parce que c'est une crise qui s'est structurée en dehors de tous les canaux habituels, qu'ils soient syndicaux, associatifs, qui d'habitude encadre, structure la contestation quand elle s'exprime dans notre pays. Donc ça a été une crise qui a profondément touché les territoires où la gendarmerie est présente, les zones périurbaines en particulier, voire les zones rurales. Et c'est un sujet aussi pour nous. On revient à un sujet de contact, de proximité avec la population, de revenir au contact de cette population, de recréer du lien, même s'il n'a jamais été rompu, je tiens à le souligner quand même, pour redonner confiance finalement dans notre action, dans notre capacité à protéger la population, à ces personnes qui se trouvent peut-être un petit peu abandonnées, le sentiment d'abandon par rapport à l'action de l'État.
La gendarmerie est souvent en première ligne pour assurer le maintien de l'ordre en pareil cas. On l'a vu par exemple à Notre-Dame-des-Landes, pour intervenir même sur des opérations complexes, de démantèlement. Est-ce que vous en avez tiré des leçons opérationnelles ?
Déjà, cette succession de crises, que ce soit effectivement Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres zones comparables, l'année finalement de manifestation des Gilets jaunes ont montré la robustesse de notre gendarmerie mobile, qui a quand même été mobilisée quasiment toutes les semaines, tous les week-ends, et qui a tenu face à ce mouvement de contestation parfois extrêmement violent. Donc c'est quand même pour nous une grande satisfaction d'avoir su être présent sur ce champ-là, qui est un champ extrêmement difficile, où le moindre dérapage, évidemment, a des conséquences extrêmement lourdes. Alors, sur les...
Mais ça tient à quoi ? Ça tient au statut militaire, justement ?
Ça tient à la formation. Il y a aussi... La gendarmerie mobile n'est pas la seule force spécialisée en maintien de l'ordre. Il y a aussi les compagnies républicaines de sécurité. Mais ce sont des professionnels du maintien de l'ordre. C'est un métier, le maintien de l'ordre, qui demande beaucoup de formation, beaucoup de
qui est très différent, d'ailleurs, finalement, de la sécurité publique.
Tout à fait, puisque c'est une action collective. n'y a aucune initiative individuelle, alors que le travail de sécurité publique, c'est un peu l'inverse. Il faut être capable très rapidement, au niveau individuel,
faut
de prendre
formé.
Des initiatives.
Il faut être formé.
Donc, voilà, le maintien de l'ordre, c'est un métier. Donc, c'est une conviction très forte que nous avons. Pour revenir sur les opérations d'évacuation, effectivement, ce sont des opérations complexes. Le bilan qu'on peut en tirer, c'est que finalement, force est restée à la loi partout. Ça a pris du temps, parce que c'est difficile. Il y a des cadres juridiques complexes. Les préfets sont extrêmement mobilisés, justement, pour assurer la sécurité juridique de ces opérations. Ce sont des opérations qui doivent être planifiées, finalement, de manière militaire, hein, comme une opération militaire. Et c'est tout le sens de notre Centre national des opérations. Mais une fois qu'on s'est bien organisé, qu'on a pris le temps, qu'on y est méthodique dans la mise en œuvre, au final, on a abouti à un résultat. Et aujourd'hui, partout où, finalement, des occupations illicites étaient en place, elles ont été démantelées.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce que nous avons abordé tout à l'heure et que j'ai appelé la révolution numérique, qui s'accompagne d'une prolifération de nouvelles menaces. Et en ce qui concerne aussi les États, est-ce que les enquêteurs de la gendarmerie et sa cellule spécialisée est intéressée et saisie dans ces cyberattaques contre les États ou les entreprises notamment, avec parfois des demandes de rançon astronomiques? Vous avez fait allusion tout à l'heure justement à une affaire spécifique. Je voudrais qu'on revienne là-dessus dans le détail.
Alors, différents services spécialisés sont à la manœuvre contre cette délinquance sous l'angle répressif. Donc, il s'agit d'identifier les auteurs et de les déférer à la justice. Il y a évidemment le service de gendarmerie, il y a également des services de police. Il y a également l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est là aussi pour aider à apporter une expertise de très haut niveau pour entraver ces attaques. La difficulté de ce travail finalement d'enquête, c'est qu'il est très difficile de confondre les auteurs puisqu'une grande partie d'entre eux réside à l'étranger et parfois dans des états assez peu coopératifs en la matière.
C'est-à-dire, on peut en citer ?
Bon, tout le monde les connaît, je pense que ce n'est pas la peine que je détaille.
La Russie ?
Mais pour nous, l'axe d'effort, c'est la prévention. Puisqu'aujourd'hui, on a encore trop d'entreprises ou de particuliers qui ne mettent pas en œuvre les règles de base d'hygiène numérique finalement et qui permettraient d'éviter ces attaques.
Mais qu'est-ce que c'est ces règles de base?
Ah ben, c'est des règles très simples de vigilance par rapport à changer régulièrement son mot de passe, regarder comment l'entête du courrier qui vous est adressé, déceler finalement toutes des choses un peu curieuses, des fautes d'orthographe. Alors parfois les escroqueries sont très élaborées, ce sont des choses bien, bien amenées. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a quand même un certain nombre de règles à appliquer. Et nous menons là-dessus un gros travail, notamment avec les associations d'élus, avec des grands partenaires, comme par exemple Pôle emploi. Nous avons signé un protocole avec Pôle emploi récemment pour, par exemple, travailler à éviter que des demandeurs d'emploi ne soient victimes de fausses offres d'emploi ou, à l'inverse, que des employeurs soient victimes de faux CV. Voilà. Donc en fait, cette cyberdélinquance, elle a des visages extrêmement variés et une très grande inventivité des délinquants en la matière.
Mais j'ai vu qu'à Pontoise, vous aviez une cellule d'enquête, d'investigation sur ce plan-là, de très haut niveau.
Tout à fait. Alors cette cellule, elle agit sur les cas les plus difficiles, en appui notamment des entreprises qui sont victimes d'attaques. Elle agit aussi pour confondre les auteurs de haine en ligne, les auteurs aussi le sujet de la radicalisation. On a toujours, il ne faut pas l'oublier aussi, le sujet de la pédopornographie, qui reste une vraie délinquance. Et le directeur général a récemment souhaité mieux structurer notre réponse en matière de cyberdélinquance en créant un commandement cyber de la gendarmerie. Il a proposé au ministre de l'Intérieur la création de ce commandement qui est opérationnel depuis le mois de février et qui a pour vocation justement de mieux structurer cette réponse, à la fois sous l'angle de la répression, mais aussi de la prévention à ce phénomène qui est en expansion extrêmement rapide.
Alors, j'ai remarqué que durant votre commandement à Nice, vous vous étiez occupé, compte tenu du fait que c'était tenu à Nice le G20, du terrorisme de masse, qui s'est depuis quelques années installé au cœur de nos sociétés occidentales. Et la France, évidemment, n'a pas été épargnée, nous le savons tous. Quelle contribution la gendarmerie nationale apporte-t-elle à ce combat et sous quelle forme ?
Alors le terrorisme, la lutte contre le terrorisme est aujourd'hui structurée autour d'un chef de file qui est la Direction générale de la sécurité intérieure. Et chaque composante du ministère de l'Intérieur apporte sa contribution. Donc la contribution de la gendarmerie, elle s'organise d'abord autour du renseignement, la captation de tous les signaux faibles dans les territoires. Et le suivi d'un certain nombre d'individus radicalisés. Donc en région Nouvelle-Aquitaine, à titre d'exemple, nous avons 21 personnes que la gendarmerie suit de manière toute particulière. Nous avons donc la contribution à ce travail permanent de renseignement qui est effectué sous l'autorité des préfets, qui sont extrêmement mobilisés sur ces sujets. Il y a des réunions hebdomadaires de suivi. On reparle souvent de ce phénomène de terrorisme quand malheureusement il y a un attentat, mais il faut savoir que c'est le quotidien des gendarmes, des policiers, des agents des services de renseignement que de lutter contre cette menace. Et le deuxième grand volet, c'est l'intervention. Il y a un schéma national d'intervention qui a été mis en place après les attentats de 2015 et de 2016, hein, qui finalement mutualise les capacités d'intervention de la police et de la gendarmerie sans cloisonnement territorial. Et donc, toutes nos unités d'intervention sont en mesure de s'engager dans ce cadre-là. Nous avons, à titre d'illustration, effectué un exercice à Bordeaux, sur la gare de Bordeaux, il y a quelques semaines, sous l'autorité de la préfecture, et qui a engagé l'ensemble des moyens, police, gendarmerie, pour bien tester nos protocoles en termes d'intervention en matière de terrorisme.
Mais là, quand vous étiez à Nice, on vous a demandé un travail spécifique, justement, par rapport à tous les enseignements que vous avez pu tirer.
Oui, à Nice, ça commence à dater un peu, c'est 2011. Depuis, on a connu les séquences extrêmement denses de 2015-2016 qui ont quand même nous ont mis fortement à contribution, nous ont amené à des évolutions extrêmement profondes dans nos dispositifs. Moi, ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est d'un échange quotidien sur ces sujets-là, d'une extrême mobilisation des services et d'une grande vigilance par rapport à cette menace.
Et ça touche la gendarmerie dans tout le territoire ?
La menace, elle est partout. Des individus radicalisés, on en trouve dans tous les territoires. Et les cibles peuvent être aussi bien en zone urbaine qu'en zone périurbaine ou rurale.
Merci, on va faire une troisième pause avant de revenir justement pour examiner toujours les mythes et les réalités de l'insécurité en France.
10h, 11h sur Europe 1. Les grands entretiens. Charles Villeneuve.
En général, général de gendarmerie, bien sûr, qui commande la Nouvelle-Aquitaine, on va aborder maintenant la gendarmerie et sa place dans la nation. Et face à la diversification des menaces dont nous parlions tout à l'heure, quelle est la stratégie globale du directeur général de la gendarmerie et de l'institution actuellement ? On la connaît assez peu.
Alors, le directeur général a proposé au ministre de l'Intérieur une stratégie globale.
C'est le général Christian Rodriguez.
Tout à fait. Christian Rodriguez a proposé au ministre de l'Intérieur une stratégie globale qui s'intitule « Jean de 2024 », puisqu'elle est sur un horizon 2024, et qui s'articule autour de quatre axes, avec un maître mot pour la population, par le gendarme. Donc le premier axe, c'est le contact. On en a déjà parlé, la proximité. L'idée, c'est bien de renforcer encore notre présence sur la voie publique, notre accessibilité, notre capacité à aller au plus près des victimes. On en parle grâce à des
Pourquoi
outils numériques.
Parce que vous sentez la nécessité, la demande du public.
Oui, on doit à la fois être capable d'avoir une offre numérique, d'être accessible en ligne. Nous avons créé une brigade numérique, d'ailleurs, puisque la société se numérise, mais en même temps, de rester très accessible physiquement et le plus possible visible sur le terrain, et non pas au sein de brigades de nos unités, au bureau. Donc, premier axe, et je dirais l'axe prioritaire, c'est cette notion de contact, et en même temps, de développer une offre de protection sur mesure, adaptée à chaque territoire.
Alors,
pas plaquer d'une réalité, une conception nationale de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Et ça se co-construit avec les élus.
Et pardon, dans cette notion de contact, plus que jamais en uniforme ?
En uniforme, bien sûr. Alors, ce qui n'empêche pas les gendarmes de travailler en tenue civile dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il y a un certain nombre de d'actes qui, par
dans les sections de recherche,
demandent de la discrétion. Mais le gendarme, effectivement, il agit en uniforme, il doit être un repère. On parlait tout à l'heure de sentiment d'insécurité. En voyant un gendarme en tenue, c'est comme ça qu'on sera en sécurité. Ce n'est pas s'il est discrètement en tenue civile.
Mais il est d'autant plus une cible aussi.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, toute la population est une cible. Donc, le rôle des gendarmes, c'est de protéger la population. Le deuxième axe, c'est l'humain, c'est-à-dire d'avoir des gendarmes qui soient bien dans leur peau, qui aient envie de s'engager, qui aient envie de continuer à servir nos concitoyens. Et pour ça, c'est, pour résumer en quelques mots, c'est les rendre plus acteurs de leur parcours. Ils aient plus la main sur leur carrière.
Donc, vous qui êtes un spécialiste des questions financières aussi, combien en moyenne gagne mensuellement un gendarme, un sous-officier ?
Un sous-officier, en moyenne, gagne à peu près 2500 euros.
Et un officier ?
Un officier, on vous rajoute à peu près 1000 euros.
Et espoir d'augmentation ?
Alors, il y a une augmentation après en fonction du déroulement de carrière. Ce que je vous donne, c'est une moyenne. Après, en fonction du grade, évidemment, et des responsabilités exercées, la rémunération évolue.
Quel est le budget général de la gendarmerie ?
Le budget général de la gendarmerie, c'est environ 8 milliards d'euros aujourd'hui. Mais une très grande partie de ce budget est consacrée aux rémunérations et charges sociales. Hein, il y a à peu près un peu plus d'un milliard sur le fonctionnement courant et les investissements.
Et vous êtes un peu plus de 100 000 sous-officiers et officiers ?
Alors 100 000 personnels d'actifs et un objectif de 50 000 réservistes qui était fixé par le directeur général avec l'accord du ministre de l'Intérieur.
Actuellement, combien de réservistes ?
Aujourd'hui, on est autour de entre 30 et 35 000 réservistes.
Et vous voulez monter à 50 000 ?
Tout à fait. Et parce qu'on en a besoin, parce que la réserve aujourd'hui est un complément essentiel à notre action. Et puis c'est aussi une forme d'engagement pour des personnes qui n'appartiennent pas à l'institution. Moi, quand je vois les jeunes qui se présentent à la préparation militaire gendarmerie, ils sont extrêmement engagés, dynamiques. Ils ont envie de servir la nation à travers notre institution.
Et il y a une demande qui augmente.
Il y a une demande extrême. Il y a beaucoup de candidats. Il y a une demande, une vraie attente. Et moi, je vois énormément de dévouement et de sens du service chez les jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on peut être réserviste sans avoir 20 ans, qui viennent servir, mettre leurs compétences, leurs capacités au service de la nation dans le cadre de la gendarmerie.
Et de plus en plus de femmes ou ça stagne
sur Il y a énormément, je pense que dans les préparations militaires, on est entre un tiers et la moitié de femmes, tout à fait.
Alors vous disiez, le deuxième axe, c'était l'humain.
Tout à fait. Donc l'humain, c'est des gendarmes qui ont envie d'être gendarmes, qui ont envie de servir leurs concitoyens et qui pour ça aient une vision peut-être plus précise, une plus grande maîtrise de leur parcours de carrière. Le troisième axe, c'est le numérique. Alors, j'ai insisté sur le contact physique, mais nous sommes dans une société qui évolue considérablement, qui se numérise. Et donc, l'objectif, pour résumer simplement, c'est que demain, on n'ait plus besoin d'aller dans une brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Vous êtes victime d'un cambriolage, les gendarmes viennent sur place, ils font toutes les constatations avec des outils numériques, ils vous entendent sur place, ils prennent la procédure sur place, et vous n'avez plus besoin de vous déplacer. On a aussi le déploiement de la procédure pénale numérique. C'est un chantier majeur voulu par le président de la République qui va dématérialiser la totalité de la procédure judiciaire. Donc c'est en train de se mettre en place actuellement. Donc demain, plus de papier, plus de dossiers papier.
Demain, quand vous dites demain, par exemple, pour déposer plainte, on n'a plus besoin d'aller dans une brigade de gendarmerie, mais demain, c'est quand ?
Demain, c'est dans les mois qui viennent. Ces capacités-là, elles sont en train de se déployer. La procédure pénale numérique, c'est en cours. Et enfin, dernier volet, la gouvernance. Alors, c'est surtout dans cet domaine-là, alléger les charges administratives qui sont nécessaires, puisqu'il faut administrer une institution de 100 000 hommes, ça demande des moyens et une bonne organisation. Mais il y a moyen aujourd'hui d'alléger ces charges, de rationaliser les choses, et également dans l'organisation du service, d'utiliser de nouvelles technologies pour utiliser l'intelligence artificielle, notamment être présent là où il faut, quand il faut.
Alors, les forces de sécurité se plaignent parfois de l'insuffisance des moyens matériels et humains mis à leur disposition pour enrayer la délinquance. Les syndicats de policiers interviennent régulièrement sur ce thème. Vous, vous n'avez pas ce moyen, vous n'avez pas de syndicat. Vous avez un statut militaire. Je sais votre devoir de réserve, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes à l'aise pour remplir vos missions réellement ? Vous êtes un général responsable de corps d'armée et compte tenu de votre statut, évidemment, vous n'avez pas les mêmes moyens d'expression, de revendication que la police.
Alors, mon devoir de réserve ne m'empêchera pas de vous répondre, M. Villeneuve. D'abord, pour vous dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, j'ai les moyens, le commandant de région que je suis a les moyens de remplir ses missions. La formation de ses personnels, l'entretien des véhicules, le carburant, les frais de déplacement pour les enquêtes. On ne roule pas sur l'or, mais on est en capacité de remplir nos missions. Après, il y a effectivement des sujets de préoccupations liées à l'immobilier notamment, puisque les efforts sur l'immobilier, c'est des efforts de long terme et on a souffert pendant pas mal d'années d'un sous-investissement en la matière. Il y a également le saut technologique qu'on évoquait à l'instant, la transition numérique, ça a un coût. Mais globalement, aujourd'hui, on a les moyens de remplir nos missions. Après, les gendarmes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de syndicat qu'ils n'ont pas de capacité d'expression. Depuis de nombreuses années, nous avions mis en place un dispositif de concertation et qui permet au personnel de faire remonter directement au ministre leurs préoccupations. Le ministre de l'Intérieur, quand il reçoit les organisations syndicales de la police nationale, il reçoit en général dans les mêmes conditions des représentants des gendarmes qui peuvent lui exprimer sans filtre leurs attentes. Et croyez-moi, ils le font.
Donc le statut militaire de la gendarmerie, c'est un handicap ou un atout ? Vous vous dites, en réalité, on parle clair.
Le statut militaire n'interdit pas le porter à la connaissance du ministre les attentes et les préoccupations des gendarmes, dans le respect du statut militaire. C'est un système différent du système de
C'est quoi
syndical.
Le respect du statut militaire ?
Eh bien, c'est le respect de comment dire, l'absence de d'organisation syndicale, c'est le respect de, comment dire, d'un certain nombre de principes hiérarchiques, mais ce n'est pas incompatible avec la remontée directe au ministre des préoccupations des gendarmes. Lors le cadre du Beauvau de la sécurité, le ministre s'est rendu à Bordeaux le 26 mars dernier et il a pu échanger sans filtre avec un certain nombre de personnels qui leur ont fait part de manière très directe de leurs attentes.
Alors, la crise du Covid et les confinements successifs ont mis des populations fragiles dans une situation de précarité et d'isolement inattendu. Vous êtes d'accord ? Ils ont conduit à une réflexion sur la solidarité dans le monde rural et dans les villes. Est-ce que la gendarmerie en a profité pour revoir ses modes d'intervention et d'action auprès de la population ?
Alors, pendant la crise du Covid, notamment le confinement intense de 2020, nous avons mis beaucoup de militaires sur le terrain. Il y avait plus de 60 000 gendarmes par jour engagés pour assurer le respect de ce confinement, mais ils ne sont pas contentés d'un rôle répressif. Ces gendarmes sur le terrain, ils ont aussi été au service de la population en allant visiter des personnes âgées, en leur apportant leurs médicaments, leurs repas, en se mettant aussi très à l'écoute des maires qui étaient assaillis de demandes de toutes sortes. Et finalement, ils sont sortis de leur cœur de métier pour pouvoir apporter ce soutien à des populations effectivement en grande difficulté ou en grande fragilité. Et cette démarche dans laquelle je pense beaucoup de gendarmes se sont retrouvés, ont retrouvé le sens de leur engagement. Parce que quand on s'engage dans notre maison, c'est avant tout au service de nos concitoyens. Et bien, effectivement, l'idée, c'est de la faire perdurer. Alors, dans des formes un peu différentes, puisqu'on ne peut pas, évidemment, le faire en permanence. Cette logique d'attention à la population, de proximité, de service du citoyen, elle doit impulser le travail de l'ensemble de nos unités.
Qu'est-ce que vous attendez du Beauvau de la sécurité ?
Le Beauvau de la sécurité,
par le ministre de l'Intérieur.
Voilà, c'est finalement une consultation assez inédite, lancée par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a à la fois eu un sondage qui a permis, là encore, de capter directement les attentes des personnels qui ont souhaité y répondre, et aussi tout un tas de tables rondes sur différentes thématiques. Tables rondes avec des échanges très directs entre les personnels et le ministre. Moi, ce que je retiens des attentes qui se sont exprimées dans ces tables rondes, c'est d'abord, effectivement, un renforcement de la formation. On évoquait tout à l'heure ces sujets de formation. On est aujourd'hui besoin de mieux former nos gendarmes. Formation initiale, formation complémentaire face à toutes les menaces.
Enfin, c'est surtout vrai pour la police, parce que le temps de formation du gendarme est supérieur à celui du policier.
Pour autant, c'est quand même un sujet sur lequel nous avons des efforts à faire et à développer.
Vous parlez des gendarmes, là.
Oui, tout à fait. Donc, notamment la formation continue. Voilà, le gendarme, il est bien formé en école, mais une fois qu'il sort d'école, il faut continuer à entretenir les savoir-faire et les adapter à l'évolution permanente des choses. Donc, des capacités de formation supplémentaires, ça veut dire aussi un peu plus d'école, de centre d'instruction. Nous avons aussi d'instructeurs également. Ensuite, le deuxième axe qui s'exprime beaucoup, c'est la protection individuelle des gendarmes, la protection physique, les matériels de protection, protection aussi de leur casernement, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de brigades dans lesquelles on peut rentrer un peu comme dans un moulin. Elles n'ont pas été conçues pour être suffisamment protégées.
Oui, il faut rappeler à la population que les gendarmes, enfin, ils le savent, mais pas tous, que les gendarmes vivent ensemble.
Exactement.
En casernement.
Avec leur famille. Et quand on agresse une brigade, on s'en prend parfois directement à la famille de nos militaires. Et puis, la protection juridique aussi, dans lesquelles il y a aussi un certain nombre d'attentes. Donc, finalement, un durcissement de nos capacités opérationnelles, un renforcement de nos unités, notamment nos unités d'intervention. Et puis, le troisième grand volet, c'est le volet finalement du système d'armes gendarmerie, c'est-à-dire principalement l'immobilier, qui est quand même aujourd'hui, finalement, structure notre organisation avec le logement en caserne que vous venez d'évoquer.
Alors, une dernière question, mon général. L'efficacité de la chaîne pénale en France est souvent critiquée, remise en question. Quelle appréciation portez-vous sur ce sujet ? C'est délicat pour un général de gendarmerie de répondre.
Réponse là aussi en deux temps. D'abord, cette notion de chaîne pénale, à titre personnel, je pense qu'elle mérite d'être précisée. On n'est pas sur une chaîne de montage de voitures où on rajoute une pièce l'une après l'autre pour un produit fini. C'est un processus où chaque acteur a un rôle assez différent, finalement. Pour simplifier, le gendarme enquête, le procureur poursuit et le juge juge, mais en toute indépendance. Voilà. Et c'est, je pense, quand même un élément essentiel de notre démocratie que l'indépendance du magistrat du siège quand il rend son jugement. Donc pour moi, la réflexion, je la concentrerai plutôt sur le lien entre le gendarme et le procureur. C'est ce lien-là qui me paraît le plus intéressant. Moi, ce que je vis dans mes contacts réguliers avec les procureurs généraux, des retours que j'ai également des liens entre les gendarmes et les procureurs de la République, c'est une mobilisation extrêmement forte de tout le monde sur les sujets prioritaires, ceux qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, les violences intrafamiliales, les violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, les atteintes aux personnes, les trafics de stupéfiants, la délinquance routière aussi, qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui reste aussi un sujet. Et donc, il peut y avoir des questions de personnes ici ou là, mais globalement, je crois que tout le monde est mobilisé sur les mêmes politiques publiques. Et moi, j'ai une conviction, c'est qu'opposer les forces de sécurité intérieure et les magistrats, ça me paraît un débat assez stérile. C'est plutôt s'assurer que tout le monde a les moyens de travailler. Et deuxièmement, que les politiques pénales et l'action des forces de sécurité intérieure sont cohérentes et menées de manière avec le même objectif. Moi, je voudrais citer un exemple récent. On a signé tout début de mois de juillet avec le procureur général d'Agen un protocole avec des élus, les forces de sécurité intérieure, la justice, sur le traitement de la délinquance du quotidien. C'est concrètement, ça veut dire que si vous êtes confronté à un dépôt d'immondices, à une occupation illégale d'un terrain, à une construction illicite sur un terrain agricole, à des tapages, que fait le maire? À qui il s'adresse? Comment la gendarmerie traite? Comment le parquet derrière va poursuivre? Et tout ça, c'est organisé, et je pense que c'est quelque chose de très pratique, de très concret. Ce n'est pas un débat conceptuel, et qui répond vraiment aux attentes de nos concitoyens.
Donc ça va beaucoup mieux quand même, ça marche beaucoup mieux que ne le prétendent les syndicats de police.
Moi, je ne me positionnerai pas par rapport à ce qu'indiquent les syndicats de police. Moi, ce que je vis, c'est un lien de confiance entre la justice, entre les magistrats du parquet et les enquêteurs.
Merci mon général. Général André Pétillot de Gendarmerie qui commande la Nouvelle-Aquitaine. Dimanche prochain, même heure entre 10h et 11h, l'invité de la direction de l'information d'Europe 1 sera Brigitte Henriques, une femme à la tête du sport olympique français. C'est elle qui va superviser les JO de Paris. Bon dimanche.